Bonjour à tous. Les députés ont planché pendant plusieurs heures tard hier soir sur la proposition de loi sécurité globale portée par la majorité et jugée liberticide par une partie de l'opposition. L'article 24 crée toujours la polémique. Il vise, je vous le rappelle, à encadrer la diffusion d'images des forces de l'ordre. Des manifestations ont eu lieu par ailleurs hier, dont une devant l'Assemblée nationale. Des échauffourées ont même éclaté dans la soirée entre plusieurs centaines de personnes et la police. Des milliers de manifestants étaient aussi descendus dans la rue dans d'autres ville à Lyon, Toulouse ou Rennes. Eux ont fait la grève hier pour réclamer un plan de rattrapage pour les services publics de leur département, le plus pauvre de métropole. Les personnels de l'éducation nationale en Seine-Saint-Denis se mobilisaient, estimant que l'épidémie de Covid-19 avait amplifié les difficultés sociales et scolaires. Environ 200 personnes ont défilé hier à Bobigny, des enseignants, infirmières scolaires et assistantes sociales notamment. Le Covid-19 est la barre symbolique des 2 millions de cas dépassés hier en France. Il y a néanmoins un léger mieux. Le gouvernement réfléchit même à des assouplissements au confinement. Selon le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, des annonces devraient avoir lieu la semaine prochaine, alors que les appels se multiplient pour rouvrir les commerces avant le 1er décembre. Le ministère de la Santé annonce la distribution de 500 000 masques transparents pour les crèches et les maisons d'assistants maternels. Le gouvernement souhaite en fait inciter les employeurs à équiper les professionnels du secteur. Des masques transparents donc, qui ont pour objectif de faciliter les liens entre adultes et enfants. À l'étranger, Donald Trump limoge un nouveau collaborateur après le ministre de la Défense. Il s'agit du patron de l'agence gouvernementale en charge de la sécurité des élections. Et puis sachez qu'aux États-Unis encore, le Pentagone annonce le retrait de la moitié des troupes américaines présentes en Irak et en Afghanistan. Donald Trump l'avait promis, il le fera donc quelques jours avant la fin de son mandat en janvier prochain.
La réalité est-elle définie par la personne qui l'observe ?
Sur France Culture, la méthode scientifique de Nicolas Martin.
Est-ce l'observateur qui fixe le réel ? On poursuit cette semaine notre passionnante conversation sur la physique quantique. On reparlera aussi longuement de la stratégie vaccinale contre le Covid des différents laboratoires et de la guerre de communication qui est en train de se jouer. Il sera aussi question des oiseaux marins, de la fonction exponentielle et comme chaque jour, de toute l'actualité scientifique, méthodiquement.
La méthode scientifique du lundi au vendredi à 16h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Après-guerre, mai 68, crise pétrolière, effondrement bancaire de 2008, alors que nous vivons confinés en pleine crise économique et sanitaire, LSD tend l'oreille aux archives pour voir à quoi ressemblaient les lendemains de crise.
Sur France Culture, le documentaire se déploie en grand format, Perrine Kervran.
Et surtout, pour mieux imaginer les nôtres quand ce sera enfin le moment.
LSD, la série documentaire, du lundi au jeudi à 17h et sur franceculture.fr.
Vous écoutez France Culture, il est 6h03, l'heure de retrouver Bruno David avec sa chronique Le Monde Vivant, consacrée ce matin à la peste.
Au petit matin, des souffles légers parcourent la ville encore déserte. À cette heure, qui est entre les morts de la nuit et les agonies de la journée, il semble que la peste suspende un instant son effort et reprenne son souffle. Le contexte, évoqué par ces quelques lignes de Camus, est celui d'Oran dans les années 40. Une époque où, bien que la bactérie responsable Yersinia pestis soit connue depuis près de 50 ans, les antibiotiques pour l'éradiquer n'étaient pas disponibles. En marge de l'allégorie nazie, la dimension biologique du roman est donc plausible. Indochine, année 1894. Le jeune médecin franco-suisse Alexandre Yersin est en poste à Saïgon à l'Institut Pasteur. Lorsqu'une épidémie de peste se déclare dans le sud de la Chine et la région de Hong Kong, il s'y rend. En bon pasteurien, il cherche à identifier le vecteur de la maladie. Mais les Anglais interdisent à Yersin l'accès à leurs hôpitaux. Peu importe, Yersin réussit à prélever des bubons sur des cadavres et à les analyser. Écoutons-le. Au premier coup d'œil, je reconnais une véritable purée de microbes tous semblables. Ce sont de petits bâtonnets trapus. Il y a beaucoup de chances pour que mon microbe soit celui de la peste. Il fallait une bonne dose de courage, voire d'inconscience, pour oser manipuler des bubons qui sont de véritables auberges à Yersinia pestis. Une infection aurait été fatale. En effet, lorsque de manière plus classique un humain est piqué par une puce, que se passe-t-il? Une seule piqûre de puce porteuse de Yersinia injecte 24 000 bacilles, tandis qu'une dizaine suffirait à provoquer l'infection. Après la piqûre, Ceux-ci migrent dans le sang jusqu'à atteindre le ganglion lymphatique le plus proche où ils prolifèrent. Au terme de quelques jours, le ganglion va être saturé. Il gonfle jusqu'à former un bubon qui ira jusqu'à éclater. Mais à ce stade, les risques de contagion sont encore limités tant que l'on se tient éloigné du pus libéré par les bubons. Le stade bubonique va ensuite évoluer vers une infection généralisée, une septicémie mortelle qui atteindra les poumons. Dès lors, le malade est extrêmement contagieux et il contamine son entourage lors de ses quintes de toux. Une fois que la maladie a atteint quelques personnes, sa transmission entre humains devient très rapide. La machine infernale s'emballe de manière exponentielle. On admet d'ailleurs que le rôle qu'auraient pu jouer les rats lors de la peste du XIVe siècle est sans doute restreint. En effet, le rat en meurt et les puces qu'il porte quittent leur hôte pour aller piquer des humains qui se transmettent directement le bacille. Désormais, plus besoin des rats transporteurs de puces, ni même des puces. Bien qu'imparfait, on doit aussi à Yersin la préparation du premier sérum antipesteux. Tout cela fait que dans l'actuel Vietnam, il est un véritable héros. Et en 2014, Alexandre Yersin a été nommé citoyen d'honneur du Vietnam à titre posthume. La prochaine fois que vous serez tenté de dire « mais quelle peste cet enfant !», ayez à l'esprit que le terme est sans doute un peu excessif.
Allez, on s'élève, 6h-7h, les petits matins de France Culture.
Le réveil culturel. Toufik Hakem.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le réveil culturel. En 1986 sortait Thérèse d'Alain Cavalier, le biopic très pictural de la Sainte de Lisieux. Dévoilé et primé au Festival de Cannes, acclamé par le public, récompensé par une moisson de César, le film continue à nous bouleverser et à nous hanter à chaque fois qu'on le revoit comme si le temps n'avait pas de prise sur lui. Film culte, film classique, salué aussi bien par les croyants que par les non-croyants. Et à l'occasion de la sortie en DVD d'une version restaurée de Thérèse chez Tamaza, Alain Cavalier a accepté de venir nous parler ce matin de la genèse du film, comment il a été conçu, écrit, réalisé. Bonjour Alain Cavalier, c'est un honneur de vous recevoir dans le Réveil culturel.
C'est un plaisir d'être ici parce que j'y suis venu plusieurs fois dans ma vie et j'étais toujours très bien accueilli ici.
Le Réveil culturel. Mercredi, cinéma.
C'est le plus beau jour de ma vie. Je la donnerai ma vie pour toi. Je suis à toi pour toujours. Je ne suis pas du tout parfaite. Aide-moi à faire bien, à aider les gens, pour te faire plaisir. Je voudrais déjà être là-haut, te voir.
On reconnaît la voix, bien sûr, de Catherine Mouchet dans le rôle de Thérèse. Qu'est-ce qui a été le plus déterminant dans votre envie de faire un film sur Thérèse de Lisieux, Alain Cavalier? Autrement dit, comment êtes-vous arrivé jusqu'à elle? Est-ce par ses mots, son témoignage, à partir de son journal, son cahier? Ou est-ce par les images, puisqu'on a des photos de Thérèse depuis son enfance jusqu'au jour de sa mort, à l'âge de 24 ans, sa sœur, qui était religieuse dans le Carmel de Lisieux, ayant eu la bonne idée d'introduire dans le couvent un appareil photo?
Ça remonte un peu plus avant, c'est-à-dire à mon enfance. J'ai été élevé dans la religion chrétienne et j'ai fait ma communion, c'est-à-dire que j'ai ingurgité l'hostie qui était le Christ et ça m'a poursuivi pendant tout mon séjour au pensionnat religieux. Donc j'étais une sorte de fanatique du Christ. C'était ma BD, c'était, il marchait sur la mer, il guérissait les malades, S'il était tout amour, donc j'étais, le temps a passé, l'idée de Dieu s'est un peu atténuée en moi, sinon beaucoup, mais la présence du Christ est restée, de Jésus-Christ est restée. Et un jour, j'ai lu le petit journal que Thérèse écrivait sur la demande de la maîtresse, de la supérieure, et elle trouvait qu'elle écrivait des lettres à ses parents assez bien tournées, et elle a écrit un petit journal comme ça, et qui a été publié après sa mort. et qui a fait un malheur dans le monde entier par sa simplicité et sa force spirituelle aussi. Et puis, juste après cette lecture, là, enfin, l'Église chrétienne a libéré les documents du couvent où elle avait vécu. C'est-à-dire qu'on a appris ce qu'elle mangeait, comment elle vivait, si elle était chauffée ou pas, comment elle était soignée ou pas soignée du tout, parce qu'elle a attrapé la tuberculose. Et il fallait souffrir hein, pour gagner le ciel. Et là, j'ai été convaincu jusque à me dire je ne pourrais jamais le faire, parce que je ne trouverai jamais la jeune comédienne ou la jeune fille qui pourra le faire. C'est une impossibilité. Alors, j'étais complètement... Je flottais et sans but, finalement, puisque je n'avais pas le visage ni le corps. Et j'allais régulièrement au conservatoire de musique, d'art dramatique, qui, à la fin de l'année, les comédiens venaient devant un public. Et j'étais à 2 mètres de la scène, là, au deuxième rang, je me souviens. Et c'était une scène d'une pièce de Molière, et Catherine Mouchet jouait la servante d'une bourgeoise. Et à un moment, elle était en état de reconnaissance devant sa patronne, elle se met à genoux, et je la vois pratiquement en gros plan, en train d'embrasser la main de sa patronne pour la remercier. Et là, tout d'un coup, je me suis dit que ça pouvait être elle. Et après, elle a l'année suivante, parce que ça, tout ça, c'est sur un temps très long. L'année suivante, elle a, avant de sortir définitivement du conservatoire, elle a joué elle a lu un texte de Bernanos qui était La mort de Mouchette. Et elle était assise sur le sol du théâtre et elle avait un ballon entre les jambes, juste là, entre les jambes. Et il s'écoulait de l'eau du ballon qu'elle avait fendu. Et c'est là où j'ai vu que les scènes étaient en pente, puisque l'eau venait vers les spectateurs comme ça. Et elle récitait la mort de Mouchette au moment où Mouchette se suicide en se roulant comme ça et en tombant dans l'eau. Et là, je me suis dit, je n'échapperai pas à Catherine Mouchet, je n'échapperai pas au film.
Mais il s'agissait de faire quoi avec Thérèse, Alain Cavalier? Qu'est-ce qui vous importait le plus? Filmer son innocence, sa foi ou sa mystique?
C'est-à-dire qu'en principe, tout. C'est-à-dire que j'ai étudié toute la mystique chrétienne depuis ses origines, et même d'autres mystiques que celle-là. Donc j'avais une attirance. J'avais même une attitude vis-à-vis du cinéma un tout petit peu... J'étais dans le couvent du cinéma, un peu. Mais uniquement avec moi-même, je n'en faisais pas profession. Hein. C'est-à-dire que j'étais une exigence, une difficulté même à résoudre des problèmes. Donc, j'essayais de concentrer mes forces tout seul, comme ça. Et voilà, j'y suis encore.
En tant que réalisateur ou en tant que croyant, ou c'est un mélange des deux, Alain Cavalier?
Tout ça se mélange. Je ne suis plus croyant dans le sens de l'Église. Je trouve que l'Église est une... Enfin, j'ai voté, même si ça s'est passé bien avant moi, je vote pour la séparation de l'Église et de l'État, de la religion et de l'État. La conjonction des deux a donné, je veux dire, l'histoire de France, mais pas ce qu'elle a de meilleur pour moi. Individuellement, je pense que ce qui compte, c'est le rapport intime que vous avez avec le Christ, avec sa charité, avec son charisme formidable de s'approcher des autres, de les guérir, de les écouter, de vivre avec les pauvres.
Alors, qu'est-ce qu'elle représente, Thérèse de Lisieux, pour vous, Alain Cavalier?
Alors, c'est une opération assez magique d'amour qui est très ancienne, c'est-à-dire d'autres religions l'ont cultivée, qui consiste à ce que des jeunes filles, en général dans le temps vierges, se consacrent à la divinité, c'est-à-dire à ce que l'homme aurait de meilleur s'il se conduisait bien, en fait. c'est-à-dire à la bonté, à la charité, à l'honnêteté, à l'humour aussi. Et donc, c'est la religion chrétienne a adopté ça. C'est des couvents de femmes, mais comme il fallait qu'elles vivent, c'était pas toujours des jeunes filles. Souvent, c'était des femmes qui avaient de l'argent, qui avaient eu des enfants et qui venaient mettre un peu d'épinards, hein, parce qu'ils n'avaient pas de fric. Ils n'avaient pas de fric. J'étais très touché. D'ailleurs, je suis allé à Lisieux, évidemment. J'ai vu la prieure qui m'a fait visiter. J'ai pas rencontré une seule nonne. Et on était tous les deux avec la prieure à un moment. On était penchés vers une fenêtre, et puis on s'est retourné. On s'est choqué la tête. C'était très curieux. Et je me suis dit, je peux pas tourner dans un endroit aussi clos, avec des cellules 3 mètres sur 3, avec des murs épais, des portes qu'on ouvre et qu'on ferme. Et j'ai cherché autre chose.
Le réveil culturel, Tufik Hakem sur France Culture.
Et ce matin avec le réalisateur Alain Cavalier pour la nouvelle version, la version restaurée de Thérèse qui devait sortir au cinéma. Les salles sont fermées en ce moment, mais on peut trouver ce film dans sa nouvelle version, donc restaurée par Alain Cavalier lui-même en DVD chez Tamasa. Alain Cavalier, à la sortie du film, sur France Culture, le grand critique de cinéma Serge Danet vous interrogeait sur Thérèse, le film, et sur Thérèse, la religieuse, et ça donne ce beau moment.
J'ai vécu avec Thérèse. Elle vivait dans mon appartement, elle dormait, elle mangeait, elle pissait. Je lui parlais et elle me disait non. Là, ce n'est pas ça.
Mais si vous viviez avec elle, alors, vous étiez qui pour elle?
J'étais quelqu'un qui s'intéressait à elle. C'est-à-dire, cette pauvre fille devait se sentir un peu seule, un peu abandonnée. Et j'étais quelqu'un qui s'intéressait à elle. Et elle était très préoccupée de ce que j'allais faire d'elle. Comme ça m'est arrivé de filmer des personnes, des acteurs, par exemple. Et puis, on raconte une histoire qui les concernait un petit peu. Alors, ils surveillaient comme ça un peu, ils apportaient des petits éléments, ils cachaient certaines choses, il y avait tout un petit jeu. Et ça, je crois que tous les biographes connaissent ça. C'est vivant. Et c'est magnifique, en fait. C'est magnifique.
C'était en 1986, avec donc Serge Danet sur France Culture, Alain Cavalier, mais là, en vous entendant, vous étiez habité par Thérèse. Alors, est-ce la Thérèse de votre film, Catherine Mouchet représentant Thérèse? Était-ce la foi du cinéma ou la foi tout court?
Je vais vous dire, c'est la foi en Catherine Mouchet. C'est-à-dire que j'ai rencontré un être humain qui a pris en charge mes obsessions mentales, hein, et qui en a été l'incarnation. Moi, j'ai avalé l'hostie qui était l'incarnation du Christ, c'est-à-dire je mangeais du Christ tous les matins au collège, et elle était Thérèse, en dehors de moi. Donc je n'avais qu'à me laisser porter par elle. Et effectivement, le film, pendant 10 semaines dans un studio, sans décor, avec simplement des murs un peu travaillés, hein, par la lumière et par la matière, je ne lui ai jamais dit un peu plus fort, ou un peu plus émue, ou un petit peu plus rapide, etc., etc. Elle était totalement. Donc je n'avais qu'à la filmer d'une façon relativement intelligente.
Qu'est-ce qu'elle avait que les autres comédiennes n'avaient pas? Parce que Alain Cavalier, vous avez fait quand même des essais avec d'autres comédiennes, notamment avec Isabelle Adjani. Qu'est-ce qu'elle avait, Catherine Mouchet, de plus?
J'ai pas fait des essais avec Isabelle Adjani.
Ah pardon,
ça. Un jour, je l'ai aperçue dans un restaurant. Je suis venu vers elle. Je lui ai dit, j'ai peut-être quelque chose à vous proposer, hein. Et j'avais un livre sur la vie intime de Thérèse qui avait été laissée, que l'Église avait laissé passer, et je lui ai donné, et elle ne m'a jamais répondu. Elle ne m'a jamais répondu, ça ne l'a pas intéressé, quoi. Ça ne l'a pas intéressé.
Vous auriez pu le faire avec elle, par exemple, avec
Adjani? Si elle m'avait dit oui, on aurait vu si on pouvait travailler ensemble. Et après, elle a parlé de Catherine Mouchet avec beaucoup d'éloges. Donc, c'est Catherine Mochet. Mon travail de cinéaste a été de choisir Catherine Mochet. Voilà.
Et pour parler maintenant de la réalisation de ce film, vous avez mis du temps, plusieurs années, pour l'écrire. Par exemple, si on prenait le principe des fondus au noir, qui sont nombreux, qui rythment en quelque sorte Thérèse, d'une scène à l'autre, le fondu est une pause, un moment de grâce dans le noir. Vos fondus au noir durent d'ailleurs une poignée de secondes de plus que la moyenne de ce procédé. C'était pourquoi ? Ça voulait dire quelque chose, Alain Cavalier ?
C'est simplement une sensation que j'ai eue. Je prends beaucoup le train, je me déplace beaucoup en train, et quelquefois je regarde le paysage, et puis je ferme un tout petit peu les yeux, et quand je rouvre mes yeux, le paysage est différent. Et cette sensation de différence avec un petit noir au milieu me semble être la vie même, ma vie même. Donc j'ai mis ça dans mes films. C'est-à-dire que un plan, c'est des choses énormes qui se mettent en route, et puis à un moment, ce plan s'épuise, il faut passer à un autre, mais au lieu de passer cut, comme on fait d'habitude, c'est-à-dire brutalement, je faisais un tout petit passage au noir, comme dans le train.
Ouais, mais qui durait un peu plus longtemps que...
Quelquefois, il dure entre une et deux secondes, vous voyez. Mais deux secondes, c'est beaucoup comme fondu au noir.
Ben oui.
C'est énorme. Mais il y en a très court aussi. Il y en a d'une demi-seconde. Il y en a d'une demi-seconde. Il y a tout. Et c'est fait au réostat. C'est-à-dire que comme on était en studio, l'électricien baissait toutes les lumières qui éclairaient la scène jusqu'au noir. C'était pas fait en laboratoire.
Ah, c'était fait pendant le tournage du film.
Voilà.
Alain Cavalier, ce film a plu aussi bien aux croyants qu'aux non-croyants. Est-ce que pour vous, c'était le but ultime à atteindre, c'est-à-dire transcender les croyances ou les non-croyances des uns et des autres, pour proposer un film, un récit sur Thérèse, et auquel cas c'est un récit humain, c'est un récit d'une sainte.
Mais je crois que ça tient à une chose, c'est que elle baigne dans l'amour absolu, c'est-à-dire dans le don d'elle-même à un homme, mais cet homme est une image de la grandeur de l'homme et de sa force et de sa bonté. Et c'est comme un moteur. Elle a un moteur atomique d'amour dans le corps et qui ne faiblit pas, même lorsqu'elle est attaquée, même lorsqu'elle est attaquée par le doute. Quelquefois, elle est soumise au doute.
Vous avez fait appel à des religieux pour ce film, pour l'écriture de ce film, pour la réalisation de ce film, Alain Cavalier ?
J'ai pris quand même beaucoup de précautions, parce que c'est un monde, les couvents quand même, si vous n'y êtes pas allé, qu'est-ce que vous venez y faire ? De quel droit ? Hein ? Vous vous introduisez et vous racontez ce qui s'y passe. Hein ? Alors, j'ai fait une enquête et puis j'ai trouvé une carmélite qui venait de sortir du Carmel où elle était restée de très nombreuses années et qui ne s'entendait pas avec la prieure et qui avait décidé de quitter le Carmel. Alors, elle était rentrée chez elle. Mais elle avait le droit à la présence du Christ. C'est-à-dire qu'elle avait une hostie consacrée avec une petite lampe dans sa chambre et je l'appelais pratiquement tous les matins en lui décrivant exactement ce que j'allais tourner et en lui demandant si c'était, je veux dire, dans l'harmonie de la vie religieuse. C'est juste. Et alors, elle m'a beaucoup aidé. Elle habitait Lyon, je l'appelais au téléphone. Elle m'a infiniment aidé.
Alain Cavalier, vous qui avez été élevé dans un milieu très catholique, comment voyez-vous, ou vivez-vous plutôt aujourd'hui, les débats, les controverses déchaînées, les passions et les drames autour des représentations religieuses ? En l'occurrence, aujourd'hui, si ça concerne plus l'islam.
J'ai une vision de la religion, j'ai pas une... Politiquement, historiquement, j'en ai fait tellement de fois le tour que je reviens à des sentiments profonds et je pense que l'état religieux est un... Et c'est l'état d'amour. C'est le comble de l'amour. Sinon, on se demande pourquoi ça existe. C'est la vie qui est célébrée, c'est la vie qui est perpétuée, c'est la vie qui est sanctifiée d'une certaine façon, à laquelle il faut faire très attention. Et voilà, si ça déborde de ça, et ça rentre dans le conflit, la politique, le règlement de compte, etc., etc. J'ai assisté quand même dans mon enfance à quasiment le suicide de l'Europe à travers cette guerre de 40-45, qui était une guerre fratricide européenne, qui a été faite par des chrétiens, qui a été faite par des protestants et qui a été faite par des Russes qui n'étaient pas qui étaient chrétiens profondément aussi. Tout ça s'est joyeusement entretué par millions. J'ai été occupé par les Allemands comme la Palestine du Christ a été occupée par les Latins. Et j'ai jamais compris entre la vie du Christ et ce que je voyais historiquement autour de moi quel était le pont. Ça me paraissait, j'étais dans le métro, il y avait un soldat allemand avec un fusil qui était à côté de moi, et je voyais sur son ceinturon « Gott mit uns », « Dieu avec nous ». Alors je me disais, quel rapport y a-t-il entre Dieu, le Dieu d'amour, et ce soldat qui est à côté de moi et qui occupe mon pays parce qu'il a un fusil que moi j'en ai pas. C'est la masse de la contradiction humaine, etc., etc., que des personnes essayent de dépasser, Jésus-Christ le premier, et Thérèse à sa suite, et par amour pour lui.
Alain Cavalier, vous avez tenu à diriger cette restauration de Thérèse qui sort, à défaut de salle de cinéma aujourd'hui, en DVD. Qu'est-ce que ça veut dire, diriger une restauration d'un film? Est-ce qu'on corrige des choses?
On ne change pas un film. Il a une image, il a un son, il est né comme ça, etc., etc. Mais ça, c'était quand c'était la pellicule, avant le numérique. Hein, c'était de la pellicule, il y avait un positif, un négatif, etc., etc. Donc on avait peu de pouvoir sur l'image. Là, avec le numérique, on a un pouvoir sur l'image. Donc, il y avait certaines scènes qui étaient un tout petit peu suréclairées, avec un chic un peu suréclairé, alors donc je les ai assombris. Il y avait des cadres qui étaient très légèrement sophistiqués. J'ai un tout petit peu serré l'image, recadré l'image, qui fait que ça, c'est plus simple, plus. J'ai enlevé tout ce qui faisait du dispositif en studio quelque chose d'un peu esthétique. Je déteste ce que j'appelle l'esthético-machin, c'est-à-dire que, ouais, qu'on voit comment c'est fait. Et là, je pense que j'ai apporté un peu de. J'ai enlevé ce qui n'était pas de la simplicité dans le film.
Et en attendant de voir cette version restaurée au cinéma, je rappelle que le film, tel que vous l'avez donc restauré, Alain Cavalier, Thérèse donc, sort en DVD chez Tamasa. Merci beaucoup, infiniment, d'être passé ce matin à nous en parler.
Merci pour l'accueil de la maison.
Le réveil culturel de Toufik Hakem est à retrouver sur franceculture.fr ou en passant par l'application Radio France.
Émission préparée avec la complicité de Corinne Amar, réalisée par Vincent Abouchard, avec ce matin la prise de son Laurie Vachon. Passez une bonne journée, on se retrouve demain.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
Alors que la demande de justice n'a jamais été aussi intense et que parallèlement la confiance dans le droit et les institutions pour la satisfaire n'a jamais été aussi faible, je vous propose dans Esprit de Justice, chaque semaine, des repères pour vous orienter dans ce monde si troublé.
Esprit de Justice par Antoine Garapon, le mercredi à 21h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Confinée avec Simone de Beauvoir.
Les chemins de la philosophie, Adèle Vendrette.
La femme mariée est-elle devenue libre? Comment Simone de Beauvoir a-t-elle influencé le travail de ses amis philosophes et réciproquement? Y a-t-il un destin biologique du corps féminin? Et enfin, de l'amour nécessaire pour Sartre aux multiples amours contingentes, comment concilier travail intellectuel et passion du cœur?
Les chemins de la philosophie, du lundi au vendredi à 10h sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France.
Vous êtes sur France Culture, le journal de 6h30 par Clara Lecoq-Réal. Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Il y a en France une chute de l'activité économique pour le mois de novembre, mais elle est moins brutale que lors du premier confinement au printemps. Voici ce qui ressort de la note de l'INSEE publiée hier soir, nous la détaillerons dans un instant. Vous comprendrez ensuite pourquoi Emmanuel Macron pense déjà à un déconfinement progressif. Il devrait s'exprimer la semaine prochaine. À suivre aussi le compte-rendu d'audience au procès de l'attentat du Thalys et la personnalité des trois accusés. Et puis le signe d'ouverture des Palestiniens. Ils acceptent de relancer la coopération sécuritaire avec Israël. Analyse dans moins de 10 minutes. L'INSEE table sur une baisse de 13% de l'activité économique en novembre par rapport à son niveau d'avant-crise. 13%, c'est notable, mais c'est moins que les 30% de baisse au mois d'avril lors du premier confinement. Vente en ligne plus soutenue, mais pas de ruée sur les carburants ou sur l'alimentaire. Les consommateurs se sont adaptés, Margot Delpierre.
Dès l'entrée en vigueur du premier confinement, la consommation des ménages a brutalement chuté de 30% par rapport à la même période l'an dernier. En novembre, la consommation recule aussi. L'INSEE prévoit une baisse de 15% par rapport au niveau d'avant-crise. Un peu plus de commerces sont ouverts maintenant. La vente à distance et les services de livraison se sont développés, mais ce n'est pas suffisant pour compenser toutes les pertes. Pour analyser les comportements des ménages, l'INSEE se base sur les transactions effectuées par carte bancaire et les données de caisse de plusieurs enseignes de la grande distribution. D'abord, il y a des similarités. Comme en avril, les dépenses les plus affectées sont celles en carburant, celles pour les achats dits non essentiels, les dépenses en hébergement, restauration, transport et loisirs, estime l'Institut. Mais l'INSEE remarque aussi des différences. À l'annonce du premier confinement, les consommateurs se sont rués dans les magasins alimentaires et sur le carburant, un phénomène beaucoup moins visible fin octobre. L'INSEE évoque une expérience acquise par les consommateurs qui ne s'inquiètent plus beaucoup des pénuries. Leurs craintes, ils l'ont compris, sont infondées. En revanche, la consommation de produits électroniques, notamment informatiques, se porte bien en ce moment et semble même supérieure à son niveau d'avant-crise, une tendance qui s'explique peut-être par l'expansion du télétravail et la nécessité d'être équipé. Enfin, le reconfinement aurait provoqué une augmentation immédiate des transactions en ligne. Les ventes sur Internet sont plus dynamiques qu'au printemps. Elles semblent même avoir pris le relais des ventes physiques les premiers jours de novembre, et cela à l'approche de Noël.
Et avant les fêtes de fin d'année et en prévision d'une catastrophe économique annoncée, sachez que l'Union des métiers de l'hôtellerie-restauration se prépare à déposer dans la journée un recours devant le Conseil d'État. Recours contre le décret du 29 octobre qui entérine la fermeture de leurs établissements. L'organisation patronale des bars et des restaurants estime être victime d'une rupture d'égalité alors que la restauration collective, par exemple, elle a encore le droit de travailler. C'est pour évoquer un déconfinement progressif qu'Emmanuel Macron prendra la parole en milieu de semaine prochaine. La situation épidémique dans le pays reste préoccupante, mais elle est moins grave que ce que le président avait anticipé quand il a décidé de reconfiner les Français. C'était le 28 octobre dernier, Stéphane Robert.
Tout est parti des chiffres fournis la veille, le 27 octobre, par l'Institut Pasteur. Les scientifiques avaient alors réalisé des projections sur l'évolution prévisible de l'épidémie. Des projections très alarmantes qui prévoyaient à la mi-novembre 8000 patients Covid en service de réanimation dans les hôpitaux, ce à quoi il fallait ajouter 2000 malades non Covid. Les capacités hospitalières allaient être complètement saturées, affirmaient alors les scientifiques, et ça, quoi qu'on fasse, c'est sur la base de ces projections que le chef de l'État avait annoncé le reconfinement de la population. Aujourd'hui, mi-novembre, nous y sommes. Et on compte un peu moins de 5000 patients Covid en service de réanimation. C'est beaucoup, mais c'est moins que les 8000 anticipés. Les mesures de couvre-feu puis le reconfinement ont finalement produit un effet plus important et plus rapide que celui qu'on avait escompté. C'est la raison pour laquelle Emmanuel Macron devrait s'exprimer en milieu de semaine prochaine, selon des informations que laissait fuiter hier son entourage, pour annoncer les étapes vers un déconfinement progressif. Sont évoquées la réouverture des commerces non essentiels, la réautorisation des cérémonies religieuses, la possibilité de se déplacer pour aller fêter Noël, et puis l'instauration d'un couvre-feu pour accompagner un éventuel déconfinement. Alors maintenant, que sera-t-il décidé précisément? Quand et comment? Ces questions commenceront à être évoquées en Conseil de défense ce matin. En attendant, l'exécutif prépare les esprits sur les assouplissements à venir pour essayer de calmer l'impatience des Français à l'approche des fêtes de fin d'année.
Stéphane Robert pour France Culture. Les députés ont commencé tard hier soir à étudier le projet de loi, la proposition de loi sécurité globale qui suscite des oppositions dans l'Assemblée et dans la rue. L'article 24 est notamment contesté. Il interdit, je vous le rappelle, de diffuser des images des forces de l'ordre si elles les mettent en danger. Un rassemblement était organisé devant le Palais Bourbon hier. Des heurts ont éclaté dans la soirée entre plusieurs centaines de personnes et les forces de l'ordre. Retour sur cette soirée dans le journal de 7h. D'ici là, nous revenons sur la journée d'hier au procès de l'attentat contre le Thalys. La Cour d'assises spéciale de Paris examine les personnalités des accusés. Ils sont quatre dans le box, dont l'assaillant, arrêté in extremis. Et hier, il s'agissait de se pencher sur ceux qui sont poursuivis pour association de malfaiteurs terroristes et complicité. Compte rendu signé Florence Turme.
Il a 18 ans à peine quand il rencontre Abdelhamid Abaoud en Turquie. Simple voyage touristique, affirme le jeune Algérien. T-shirt Adidas, chevelure noire et fournie. Et cette rencontre avec le cerveau des attentats de novembre 2015 sera déterminante. Il me parlait souvent de la Syrie, disait qu'il y avait un État islamique avec une belle vie, que le vrai monde se trouvait là-bas. Il m'a demandé si je voulais y aller. J'ai dit oui. 5 mois sur place, formé au maniement des armes et un surnom, souligne le président, Hamza le sniper. Face à la cour, Bilal Chatra reconnaît son rôle d'éclaireur, celui qui a fourni de faux papiers et ouvert le passage en Europe à Abdelhamid Abaoud et Ayoub El-Razani, l'auteur de la fusillade du Thalys, mais en aucun cas la complicité de tentative d'assassinat qui lui est reprochée. Mohamed Bakali lui conteste tout en bloc, il est poursuivi pour avoir servi de chauffeur dans cette affaire, mais également dans le dossier des attentats du 13 novembre. Voix calme, enfance heureuse dans une famille soudée à Verviers en Belgique. De la contrefaçon, vêtements et baskets, il tire plus de 3000 euros de bénéfices par mois en plus de ses allocations chômage. Banalise son mode de vie dans l'illégalité, conception orthodoxe de la religion, mais dit-il hostile à tout sectarisme. En prison, il a entamé des études de sociologie et visiblement convaincu l'enquêtrice de personnalité de la sincérité de sa démarche. La cour d'assises va se demander comment il en est arrivé là, conclut-elle, et lui aussi se demande comment il en est arrivé là.
Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo doit atterrir aujourd'hui à Tel Aviv suite de sa tournée diplomatique. Et pour l'occasion, pour marquer surtout le changement de présidence aux États-Unis, l'autorité palestinienne annonce qu'elle relance la coopération sécuritaire avec Israël. Frédéric Mettezo.
C'est le cadeau de bienvenue des Palestiniens à Joe Biden et un bras d'honneur à Donald Trump. Il y a bientôt 3 ans, quand le président américain avait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël, l'autorité palestinienne avait rompu tout dialogue avec Washington et en mai dernier, face au danger d'annexion d'une partie de la Cisjordanie par Israël dans le cadre du plan Trump, elle avait suspendu la coopération sécuritaire. En réalité, cette coopération n'avait pas complètement cessé, mais tout de même, la lutte commune contre le coronavirus avait été entravée et l'autorité palestinienne s'était privée du reversement de taxes douanières par Israël. L'annonce de ce rétablissement devrait donc détendre la situation en Cisjordanie et Mahmoud Abbas confirme ses bonnes dispositions envers Joe Biden, avec qui il a hâte de travailler. Il montre qu'il lui fait confiance. Le président palestinien fait comme si Trump n'était plus là et pas n'importe quand. À quelques heures de l'arrivée du chef de la diplomatie américaine en Israël, Mike Pompeo est annoncé dans une colonie israélienne de Cisjordanie, une provocation pour les Palestiniens qui ont donc répondu.
Pour les dernières semaines de présidence de Donald Trump encore, notez que le Pentagone a confirmé hier un retrait partiel des troupes américaines qui sont déployées en Irak et en Afghanistan. Nous terminons cette édition avec les mémoires de Barack Obama. Intitulées « Une terre promise », elles viennent de sortir chez Fayard. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que l'ancien président américain est assez critique, Christian Chesneau.
C'est au G20 de Londres, d'avril 2009, que Barack Obama a fait ses premiers pas sur la scène internationale. L'ancien président américain dresse une galerie de portraits savoureuse de ses homologues de l'époque. Chez la chancelière allemande, Angela Merkel, il remarque des grands yeux clairs où on pouvait lire tour à tour la frustration, l'amusement ou un soupçon de tristesse. Son apparence impassible, poursuit Barack Obama, reflétait sa sensibilité pragmatique et analytique. Le contraire de Nicolas Sarkozy, une personnalité, selon Barack Obama, tout en emportement émotif et en propos hyperboliques. On aurait dit un personnage sorti d'un tableau de Toulouse-Lautrec, ajoute-t-il. Il compare même son homologue français à un coq nain avec qui la discussion est tour à tour amusante et exaspérante. Nicolas Sarkozy n'est pas le seul à en prendre pour son grade. Le tandem russe, Dimitri Medvedev et Vladimir Poutine, ressemblait autant à un syndicat du crime qu'à un gouvernement traditionnel, écrit Barack Obama. Le président brésilien Lula ne vaut guère mieux sous sa plume. Il est dépeint comme un personnage aussi scrupuleux qu'un boss new-yorkais à l'époque des grandes magouilles. Pas dupe, il note que des rumeurs circulaient autour de Lula concernant du copinage et des pots de vin s'élevant à plusieurs milliards. Quant au président chinois Hu Jintao, Barack Obama le décrit comme un homme quelconque. En tout cas, lors de ce premier G20, l'ancien président américain se souvient, même ceux qui se plaignaient du rôle des États-Unis dans le monde comptez sur nous pour maintenir le système à flot.
C'était Christian Chéneau. Les averses arrivent par la pointe bretonne ce mercredi. D'ici là, le soleil devrait briller avec 6 degrés à Lyon ce matin, 8 à Paris, 13 à Perpignan. À 6h40, c'est l'heure du journal des idées sur France Culture. Avec vous, Jacques Munier, bonjour.
Bonjour Clara Lecoq-Réal.
Lire et écrire sont les deux aspects d'une même opération, Jacques. L'expérience littéraire et le confinement nous a sensibilisés à cette forme de réciprocité.
Et oui, et nous retrouvons comme un parfum d'enfance dans nos journaux de confinement l'apprentissage conjoint de la lecture et de l'écriture. Dans le Figaro, Alain Bentolila insiste sur cette double dimension dans l'acquisition d'aptitudes fondamentales chez les enfants, car il s'agit alors de négocier un juste équilibre entre les ambitions singulières de notre imagination et le respect des conventions imposées par le texte. Je cite « Lire, c'est construire et défendre son propre sens à partir des mots d'un autre ». Le linguiste évoque un propos de Georges Stenner. « Lire, c'est répondre fraternellement à l'appel désespéré de l'écriture, laquelle témoigne en effet d'une absence, celle de l'auteur, qu'il soit mort ou vivant, mais aussi celle de l'oubli contre lequel se construit l'expérience littéraire. Il ne s'agit pas seulement de développer des capacités cérébrales, mais de répondre à une urgence contre la tentation de l'image omniprésente et à travers une lecture précise et audacieuse des textes les plus beaux et les plus justes, d'inviter nos enfants à mettre en mots leurs pensées au plus juste de leurs intentions. Si la précision est souhaitable, voire désirable, affirme Maëlys de Kerangal, c'est parce qu'elle arme une forme de résistance contre la massification des imaginaires, la standardisation du langage qui n'est pas autre chose que l'expression d'une inattention aux vies mêmes. L'écrivaine développe son art d'écrire dans la dernière livraison de la Revue du Crieur. Je la cite « Si l'attention se manifeste dans différents usages de la langue, c'est dans la description que je trouve de quoi m'y tenir, c'est dans cette écriture qui induit l'attention que j'ai situé l'un des enjeux de mon travail. Et par exemple, s'initier à sa propre langue en retrouvant dans les caves les vocabulaires oubliés, les lexiques désaffectés, les glossaires prolétaires, vieillis, argotiques, ces parlers impurs, ces bas morceaux de la langue auxquels on dénie toute dignité littéraire, pour faire le choix d'une sémantique qui engage la mémoire des mondes délaissés, disparus. Comme un paradigme de cette attention portée à la vie mutilée, Maëlys de Kerangal évoque l'hospitalité post-mortem dans les cimetières de Sicile, de ceux qui travaillent patiemment à l'identification des noyés de Méditerranée pour leur donner une sépulture, que leur nom soit gravé dans la pierre et que l'on s'en souvienne. Ceux qui, pour déconstruire la multitude, creusent dans le particulier et font surgir des vies. Hélène Dumas s'est plongée dans les milliers de cahiers d'écoliers noircis par des enfants survivants du génocide Tutsi au Rwanda. Des témoignages suscités par des ONG, une association de veuves notamment, aidés de conseillers en traumatisme et de psychologues pour contribuer à une archive des rescapés les plus jeunes. Philippe Artière rend compte sur le site En attendant Nado du travail de l'historienne publié à la découverte sous le titre Sans ciel ni terre, paroles orpheline du génocide des Tutsis. La lecture d'Hélène Dumas résulte de plusieurs actes d'écriture, dont le soin porté à la traduction des paroles enfantines, pour constituer ce livre comme une autre histoire du génocide. Émilienne Moukansaro, rescapée du génocide et psychothérapeute, est l'une des figures de cette relation qui a rendu possible de lire ces textes à la source, c'est-à-dire non pas de lire des documents bruts, mais des documents transmis, comme on le fait d'un précieux secret. Hélène Dumas montre comment ces gamins ont dû, pour survivre et échapper à leurs bourreaux, se construire de nouveaux écosystèmes de survie, une géographie intime avec des cachettes qu'ils ne partageraient plus avec le monde des adultes, un monde à soi, habité pour tout simplement ne pas mourir. Voici à l'état brut quelques bribes de récits d'une enfance figée, ayant subi les pires violences, mais rédigées à la première personne. Alors, je suis descendu pour échapper à la barrière et je suis allé par la vallée. J'ai pénétré dans les marais de papyrus et j'ai vécu comme un crapaud. Ou encore cette gamine qui se rappelle « Dans cette brousse, je me suis couché sur un serpent. J'avais peur des balles, mais lui aussi avait peur. En vérité, s'il m'a mordu, je ne le sais pas. » (6h45 sur France Culture, c'est l'heure des enjeux internationaux avec vous, Antoine Dulster, bonjour.
Bonjour Jacques Munier, et bonjour à toutes et à tous.
Aujourd'hui, Boris Johnson et le gouvernement britannique avec le principal conseiller du Premier ministre qui a quitté le navire.
Oui, c'est un départ très important, celui de Dominic Cummings, principal conseiller donc du gouvernement de Boris Johnson. Un départ qui laisse peut-être augurer de changements dans les orientations politiques de ce gouvernement. Cummings était un partisan très déterminé du Brexit depuis le début. On lui prêtait une large influence sur les décisions les plus controversées du gouvernement britannique, y compris le vote de la loi sur le marché intérieur adoptée en septembre, qui contrevient au principe de l'accord signé avec les Européens sur le Brexit. Une première inquiétante dans le pays du rule of law. Alors, ce départ intervient dans un contexte très particulier. Alors que le Royaume-Uni apparaît isolé sur la scène internationale et surtout alors que on est dans l'attente d'un hypothétique accord avec l'Union européenne pour la sortie du Royaume-Uni de l'Union. Alors il est évidemment trop tôt pour dire si on peut s'attendre à un changement de direction véritablement dans la politique britannique, mais commençons par se demander si les conditions d'un nouveau départ pour Boris Johnson sont réunies. Bonjour Aurélien Antoine.
Bonjour.
Alors vous êtes professeur de droit public à l'université Jean Monnet de Lyon-Saint-Étienne. Vous êtes fondateur de l'Observatoire du Brexit et vous avez publié cette année « Le Brexit, une histoire anglaise » chez Dalloz. Alors je mentionne un nouveau départ pour la politique de Boris Johnson. Ce serait un nouveau départ qui commencerait à l'isolement puisque le Premier ministre britannique est un cas contact de Covid-19. Mais tout de même, peut-être un nouveau départ politique. Aurélien Antoine, le départ de Dominic Cummings, est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Boris Johnson et pour la démocratie britannique?
Alors pour Boris Johnson, je ne sais pas. En tout cas, c'est la fin d'un tandem qui aura marqué la politique britannique entre 2016 et 2019. Hein, cette première phase du Brexit qui a vu finalement Boris Johnson gagner un peu sur tous les plans. Pour la démocratie britannique, oui, je pense que c'est une bonne nouvelle parce que le gouvernement était surtout concentré au 10 Downing Street avec ce duo qui se rapprochait un petit peu à des pratiques de mauvais souvenirs du début des années 2000 de Tony Blair, le Sofa Government. Donc c'est aussi un peu une reprise du Parti conservateur et une influence d'un certain nombre de députés conservateurs. Donc oui, ça montre une fois de plus que la démocratie parlementaire britannique fonctionne tout de même.
Alors, je le disais, on prête à Dominic Cummings une énorme influence, et notamment sur cette loi que je mentionnais il y a quelques instants, sur le marché intérieur. C'est quand même pas tout à fait anodin, cette loi, puisqu'elle contrevenait à un accord qui avait valeur de traité international, qui avait été signé avec les Européens. Cette influence au plus haut niveau de l'État britannique, ça voulait dire que le principal conseiller de Boris Johnson était quelqu'un qui pouvait remettre en cause la rule of law, tout simplement.
Alors, Dominic Cummings était quelqu'un de brillant intellectuellement, c'est un très fin stratège et les événements précédents le démontrent, mais c'est quelqu'un de brutal et qui fixe l'objectif politique comme graal ultime et son objectif politique en l'espèce, quitte à fouler aux pieds les principes les plus importants justement de cette démocratie britannique. On avait vu l'année dernière, lors de la prorogation du Parlement, hein, l'arrêt du travail des parlementaires sur une période très longue qui avait été sanctionné par la Cour suprême. Il y avait encore discussion à l'époque, mais là, il a franchi véritablement un Rubicon avec cette loi attentatoire au droit international public et au droit de l'Union aussi, hein, au principe de bonne foi. C'est quelque chose qui est assez connu de la part de Cummings, qui par ailleurs avait violé, on se souvient, les règles du confinement au début de l'été en Angleterre.
Oui, c'est effectivement quelque chose qui avait déjà fragilisé sa position politiquement. Parlons un petit peu, Aurélie Antoine, si vous le voulez bien, des circonstances aussi du départ de Dominic Cummings, puisqu'il n'est pas le seul à quitter le navire du 10 Downing Street. Son départ suit celui du directeur de la communication du Premier ministre, Lee Kane, qui était lui aussi ce qu'on appelle un hard Brexiter, un partisan très déterminé du Brexit. Je parlais d'un infléchissement, je parlais d'un nouveau départ pour Boris Johnson. On a un sentiment quand même qu'une certaine ligne s'affirme, un retour à quelque chose qui serait plus en accord avec la majorité conservatrice aux communes, qui serait peut-être partisane déjà d'un accord avec l'Union européenne dans des conditions un petit peu meilleures que ce que préconisait Cummings.
Oui, c'est vrai que la majorité conservatrice pouvait être considérée comme une expression qu'on tient chez nous de l'époque de la restauration monarchique, de chambre introuvable. Donc on allait dire à l'époque, bah si vous en souvenez, en 2019, après les élections générales de décembre, que Boris Johnson aurait complètement les coudées franches pour mener la politique qu'il souhaitait. Évidemment, les événements en ont décidé autrement. Et puis, d'un point de vue structurel, le fonctionnement du Parlement britannique, les parlementaires ne sont pas des godillots comme dans d'autres démocraties. Je pense en particulier à la nôtre, où et au bout d'un moment, ils se rendent bien compte, c'est leur pragmatisme qui parle, que l'absence d'accord avec l'Union européenne serait une catastrophe. Et les circonstances ont aussi beaucoup aidé pour que la ligne évolue. On va voir si cela va se concrétiser.
Quelles sont les lignes de clivage dans cette majorité conservatrice aux communes? Vous le disiez il y a un instant, il y a 365 sièges qui ont été remportés par les Tories sur 650, avec 109 nouveaux élus conservateurs. Est-ce qu'ils sont divisés? Est-ce qu'ils sont unis? Mais autour de quoi? On a beaucoup parlé de ce slogan dans cette campagne pour les dernières élections générales, « Get Brexit done ». Mais de quel Brexit parle-t-on?
Alors on revient un peu sur des débats de l'an passé, hein, puisque de toute façon la conclusion du traité de sortie posait déjà la question de la relation future, même si elle n'était pas réglée. Au sein du Parlement, la majorité conservatrice, la scission qui est la plus importante en réalité, c'est peut-être pas encore sur des courants d'idées qui ne se sont pas véritablement encore constitués, même s'il y a des députés qui sont évidemment des soft Brexiters, mais c'est plutôt la distinction entre ce qu'on appelle les backbenchers, ceux qui sont derrière les parlementaires qui disposent de portefeuilles ministériels. Ils sont très nombreux, alors parfois avec des portefeuilles très très réduits, mais c'est plutôt cette fracture-là qu'il faut voir. Et puis une autre fracture, alors celle-ci qui est véritable, entre les députés, les MPs de la Chambre des communes et les Lords de la Chambre des Lords, qui est une chambre qui est restée très pondérée sur le Brexit, voire opposée. On l'a encore vu dans le cadre de la discussion à propos du projet de loi sur le marché intérieur.
Alors, ce départ, hein, encore une fois, de Dominic Cummings, même s'il ne faut pas parler évidemment que de ce conseiller, mais ça donne en tout cas l'occasion de s'interroger sur ce qu'est l'identité politique de Boris Johnson. On l'a connu sous des jours un petit peu plus libéraux, avec des inclinations plus libérales lorsqu'il était maire de Londres. C'était entre 2008 et 2016, avant évidemment de prendre en marche, je ne sais pas si l'expression serait satisfaisante, mais en tout cas de participer à cette campagne sur le Brexit. Est-ce que ce Boris Johnson, plus libéral, peut-être plus pragmatique, peut réapparaître une fois qu'il serait débarrassé de ce mauvais génie de Dominic Cummings?
C'est vrai qu'il est très difficile à suivre, Boris Johnson. Ce qu'il a de très britannique, c'est évidemment les paradoxes et le pragmatisme. Il ne faut pas oublier qu'avant de prendre sa décision de savoir s'il allait soutenir le Brexit ou non lors du référendum, il avait prévu deux annonces. Donc ça prouve que, en la matière, je ne pense pas qu'il ait finalement des convictions chevillées au corps, d'où l'importance de personnages comme Dominic Cummings, qui, eux, ont des très fortes convictions et l'ont sans doute convaincu de l'enjeu historique historique qui était lié au Brexit et que ça pourrait faire de Boris Johnson un personnage historique, ce à quoi il est très attaché. Moi, je pense que dans son caractère, pour avoir lu ses biographies et le suivre depuis un certain nombre d'années, il est clair qu'il y a ce pragmatisme et il y a cette volonté de rattachement à l'histoire. Et il y a vu un Brexit cette opportunité. Maintenant, on voit bien que dans le contexte actuel, notamment de la pandémie, il se rend bien compte que le jusqu'au boutisme dont il a fait preuve, mais de façon très aléatoire, hein, il est passé de propositions en termes purement juridiques d'une relation commerciale type Canada, puis Australie, puis il a évoqué la Norvège, puis d'autres. Bon, tous ces éléments montrent que sur le fond, la substance, j'allais dire dans le dur, ça manque de rigueur. En revanche, si on essaye de lire sa politique par rapport aux éléments que je viens de vous citer, peut-être que l'élément de pragmatisme, et effectivement quand même le fait que ce soit quelqu'un de cultivé qui a quand même une forme, enfin qui est quand même très intelligent, pourrait le conduire finalement à céder sur certains points, du moins il faut l'espérer si on veut un accord.
Alors sur cette vision à long terme de ce que serait la politique de Boris Johnson, Aurélie Antoine, je vais vous citer dans un article sur le conservatisme justement de Boris Johnson que vous avez publié dans la revue Esprit. Vous écrivez qu'il se présente en réalité comme un néo-réactionnaire en faisant une allusion à ce que seraient ses inspirations, ce qu'on connaît comme le projet de One Nation Britain, issu de la vision de Disraeli. Encore une fois, dans ce conservatisme de Boris Johnson, il peut se manifester sous un aspect pragmatique, mais il est adapté à la réalité que le connaît le Royaume-Uni actuellement.
Je ne crois pas que ce soit finalement très très adapté, en tout cas au moment où il a prononcé le discours sur lequel je me fonde pour déterminer ce néo-conservatisme qui date de début février, avant la grave crise de la Covid-19. Aujourd'hui, évidemment, je pense que ça manque de réalisme. Ce qui est certain, c'est que Boris Johnson, derrière les atours et les habits des références culturelles, historiques de son pays, souhaite se débarrasser du Brexit le plus rapidement possible et passer à autre chose. Et d'ailleurs, on voit bien que le dossier occupe beaucoup moins les médias et le peuple britannique en ce moment. Donc ça fait partie de ces paradoxes. Il affiche effectivement une volonté de s'inscrire dans les pas de grands noms de l'histoire britannique, mais les faits, malheureusement, devraient le rattraper.
Merci beaucoup Aurélie Antoine. Je rappelle que vous êtes professeur de droit public à l'université Jean Monnet de Lyon-Saint-Étienne et fondateur de l'Observatoire du Brexit.
France Culture, l'esprit d'ouverture.
La réalité est-elle définie par la personne qui l'observe ?
Sur France Culture, la méthode scientifique de Nicolas Martin.
Est-ce l'observateur qui fixe le réel ? On poursuit cette semaine notre passionnante conversation sur la physique quantique. On reparlera aussi longuement de la stratégie vaccinale contre le Covid des différents laboratoires et de la guerre de communication qui est en train de se jouer. Il sera aussi question des oiseaux marins, de la fonction exponentielle et comme chaque jour, de toute l'actualité scientifique, méthodiquement.
La méthode scientifique du lundi au vendredi à 16h sur France Culture et sur franceculture.fr.
Le virus de la Covid, je ne sais pas vraiment quand je le croise, mais je sais qui j'ai croisé. Alors, si je suis testé positif, je m'isole et je communique la liste des personnes avec qui j'ai été en contact à mon médecin traitant et à l'assurance maladie pour qu'ils puissent les alerter. En parallèle, j'alerte moi-même sans attendre mes collègues de travail, ma famille, mes amis. Plus vite ils seront informés, plus vite ils pourront s'isoler eux-mêmes et éviter d'infecter d'autres personnes. Oui, en identifiant les personnes à risque, j'aide à ralentir la propagation de l'épidémie.
Tester, alerter, protéger. Le bon choix, c'est de faire les trois. Ensemble, continuons l'effort. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé, de l'Assurance Maladie et de Santé Publique France.